Vous êtes sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Avant le rappel des titres, Michel est avec nous. Bonjour Michel.
Oui, bonjour Pascal.
Les carburants, est-ce que ça sera le sujet de la présidentielle ?
Alors, ça va être un sujet de présidentielle. Actuellement, le gouvernement fait un choix économique, mais bientôt, il devra faire un choix politique.
On continue ce début de discussion dans une seconde. Le rappel des titres, Amandine.
Et elle a eu ce discours d'Emmanuel Macron à Strasbourg devant les députés européens. Le président a défendu ses priorités pour les 6 prochains mois. Il souhaite notamment que le droit à l'avortement et la protection de l'environnement soient intégrés dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Discours solennel à un peu plus de 3 mois maintenant de la présidentielle. Marie-Bénédicte Allaire, vous êtes sur place pour RTL. Le président répond désormais aux questions des différents députés. On a vu un face-à-face avec Yannick Jadot qui visiblement a lancé, ça y est, le match de cette présidentielle.
Absolument, Yannick Jadot debout face à Emmanuel Macron qui lance « Vous resterez comme le président de l'inaction climatique, vous avez accepté l'accord commercial avec la Chine qui massacre les Ouïghours ». Puis il rappelle la mort dans la Manche des 27 migrants partis de Calais.
Pourquoi, monsieur le président, vous décidez chaque jour à Calais d'arracher les tentes, d'humilier ces survivantes et ces survivants ? Monsieur le président de la République, cessez de tendre l'oreille aux théories fumeuses et nauséabondes du grand remplacement.
Emmanuel Macron prend des notes sans broncher. Les députés macronistes, eux, protestent. C'est une honte, on n'est pas à l'Assemblée nationale, lance leur chef de file Stéphane Séjourné. À l'Assemblée, non, mais en campagne présidentielle, sans aucun doute.
Marie-Bénédicte Allaire, en direct de Strasbourg pour RTL. Au même moment où presque Arnaud Montebourg lui jetait l'éponge, la remontada s'est terminée. Il ne sera pas candidat à la présidentielle, annonce faite dans une vidéo dans laquelle il indique qu'il ne soutiendra d'ailleurs aucun candidat. L'actualité, c'est aussi ce dramatique accident de ski pour l'acteur Gaspard Ulliel. Ça s'est passé hier sur le domaine de la Rosière en Savoie. Le comédien qui a été hospitalisé à Grenoble, Serge Puyot, dans un état grave.
Oui, selon nos informations, effectivement, l'acteur serait dans un état grave. Il a été victime d'un important traumatisme crânien. Hier après-midi, il est entré en collision avec un autre skieur à l'intersection de deux pistes bleues sur le domaine skiable de la station de la Rosière en Savoie. À l'arrivée des sauveteurs, Gaspard Ulliel, 37 ans, était inconscient. Il a été transporté par hélicoptère au CHU de Grenoble, l'hôpital le plus important de la région qui traite les accidents de ski les plus graves. Pour l'instant, la direction de l'hôpital ne donne pas plus de précisions sur l'évolution de l'état de santé de l'acteur.
Serge Pillot, en direct de Grenoble pour RTL. Merci à vous pour ces informations. Un tout petit mot de tennis pour vous dire qu'à l'Open d'Australie, ça va toujours bien pour Gaël Monfils qui mène désormais 2-7, 6-1, 6-0 face au Kazakh Bublik.
Ça va très bien même.
Et dans le troisième set, c'est le Kazakh qui mène 2-1. Tout n'est pas du tout...
6-0, 6-1, ça devrait se faire.
Peggy, la météo avec vous. Je cherche mes petites feuilles. Bon,
comme
c'est
le
pas
soleil,
terrible,
en fait, vous le cherchez aussi.
Oui, voilà,
aussi.
C'est ça. Mais voilà, on cherche le soleil aujourd'hui.
Ben oui, mais en fait, il faut être en montagne pour le trouver, le soleil. Alors, essentiellement sur les hauteurs des Pyrénées, et puis alors surtout sur les Alpes, là, il n'y a pas de problème. Il peut y avoir, alors j'en cherche un petit peu, quelques éclaircies qui restent encore vers l'Alsace, éventuellement sur le littoral provençal, mais les nuages sont nombreux avec quelques gouttes possibles. Partout ailleurs, en Corse y compris, le gris est de rigueur, un ciel bien couvert avec quelques pluies qui arrivent là entre la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France. Et ces pluies, on devrait les retrouver vers l'Île-de-France d'ici la fin de journée en sortant du travail. Prenez le parapluie si vous en avez un dans votre sac. De la façade atlantique au nord-est, là encore un peu de bruine localement, quelques flocons également du massif central au nord-est et les températures. Alors c'est vrai qu'elles sont un peu fraîches par endroit et sinon, globalement de saison, 3 à Besançon, c'est un peu frais là, 4 à Metz, à Montauban, Berrieux, Limoges, 6 à Tours et Reims, 8 à Paris, c'est 2 saisons, ainsi qu'à Nantes, 9 à Bordeaux, 11 à Biarritz et Perpignan, 12 à Marseille et jusqu'à 14 degrés à Nice-Sébastien.
Et pour demain, ce sera un peu mieux, un peu,
exactement, parce qu'on va retrouver un ciel plus lumineux dès le matin sur le nord-ouest et près de la Méditerranée, mais avec beaucoup de vent ailleurs du sud-ouest au nord-est. Le temps restera gris avec encore quelques averses, alors de pluie ou de neige, neige du massif central aux frontières de l'est et au nord. Et ça va se dégager un peu plus entre le nord-Aquitaine et Midi-Pyrénées dans l'après-midi. Le tout sous des températures alors moins froides demain matin. Il y aura quelques gelées, mais beaucoup moins fortes. Et des maximales stationnaires de 4 à 8 degrés sur l'ensemble du pays, jusqu'à 14 près de la Méditerranée.
Merci Peggy,
merci Amandine, merci à Ludovic van de Kerkhoff qui était à la rédaction en chef de ce 12h30.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
La hausse des carburants, donc ça fait causer. Nous sommes avec Michel, qui est chef d'entreprise à Toulouse. Alors, c'est assez intéressant, cette hausse des carburants, parce que notre ami Christophe Bourou le rappelait, aujourd'hui, paradoxalement, l'essence coûte moins cher qu'elle ne coûtait en 1973. Le SMIC, par exemple, a multiplié par 7 en euros constants quand le prix du litre d'essence n'a que multiplié par 4,5, en gros. Donc, c'est assez étonnant. Disons-le, mais en même temps, c'est la une de tous les journaux depuis quelques jours, Michel.
Oui, Pascal, rebonjour. Un petit rappel historique quand même. Il y a un an et demi, quand les gilets jaunes sont descendus dans la rue, c'était pour une raison principale qui était notamment le coût de l'essence et qui était largement, largement en deçà de ce que c'est maintenant. Un petit rappel quand même. Ce matin, le ministre Le Maire a déclaré que faire baisser de 10 centimes le litre coûterait 50 milliards à l'État, qu'il fasse ses économies. Au-delà de cela, je suis désolé, mais quand la matière augmente, et, compte tenu de que les charges sont à peu près, que les taxes plutôt sont à peu près de 70 à 80% au niveau des carburants, ça génère du chiffre d'affaires au profit du budget de l'État. Peut-être pour payer l'argent qu'il a distribué, peut-être. Il n'empêche qu'aujourd'hui, le gouvernement fait un choix économique en disant « ceux qui disent le contraire sont des menteurs ou des gens qui n'y connaissent rien ». Merci de nous avoir tensé ainsi. Encore une fois, un joli respect du peuple français. Mais au-delà de ça, je suis désolé, mais enfin, ça génère du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, il reste sur cette position. Je n'imagine pas que dans les élections présidentielles étant dans un petit peu moins de 80 jours, je n'imagine pas que d'ici 15 jours, 3 semaines, a fortiori un mois, il ne soit pas obligé de faire un geste politique. Compte tenu que les élections présidentielles vont forcément attiser le mécontentement et un des arguments forts pour que les Français se rappellent quand ils mettront leur
budget
de vote.
Vous avez parfaitement raison, l'important c'est ce qu'on a dans la poche. Mais il me semble que pour booster le pouvoir d'achat, il y a d'autres manières et beaucoup plus efficaces de faire que les Français aient plus d'argent dans la poche. Je pense notamment entre la différence entre le salaire net et le salaire brut, par exemple. On pourrait imaginer que les charges salariales soient moins importantes. De la même manière, on attend sur les droits de succession un geste très fort du président de la République. Là, j'ai fait le calcul, je l'ai dit tout à l'heure, un Français fait 13 000 km par an. 13 000 km par an, en gros, faut 1000 litres d'essence pour faire 13 000 km par an. S'il y a 20 centimes d'euros d'écart, c'est un écart de 200 euros à l'arrivée en un an. 201 euros en 12 mois, ça fait 16 euros par mois. C'est toujours délicat, bien sûr, de parler d'argent, mais c'est vrai que 16 euros de différence dans un sens ou dans un autre par mois, ça ne me paraît pas. Je le dis vraiment avec des précautions oratoires, parce que je ne suis pas dans la situation sans doute de celui qui gagne 1200 ou 1300 euros par mois, mais ça me paraît gérable, 16 euros par mois, alors qu'il y a d'autres choses sur lesquelles on pourrait booster le pouvoir d'achat, Michel.
Pascal, oui, ce n'est pas faux. Simplement, il y a des produits en France qui sont des produits références. On a parlé du pain, je crois, la semaine dernière, ou il y a une dizaine de jours. Le prix du carburant est également un produit référence. C'est un produit qui fait parler, c'est un produit qui fait râler, et c'est un produit qui fait bouger les Français dans l'opinion qui se font. Et effectivement, ce calcul économique n'est peut-être pas faux. Entre parenthèses, moi j'ai 8 véhicules dans le cadre de mon entreprise qui tournent tous les jours. J'achète l'essence par cuve, puisque nous avons une cuve dans l'entreprise. Je peux vous dire que tous les 15 jours, quand nous remplissons la cuve, on voit la facture qui s'additionne. On le voit encore plus quand c'est un fort volume, d'un seul coup, plutôt que du petit volume.
Vous avez 8 camions, c'est ça ?
Oui, c'est ça. 8 véhicules, j'ai 6 camions et 2 véhicules légers. Donc forcément, deux pleines de 1200 litres, 2400 litres par mois, je peux vous dire, à l'addition, on se rend compte qu'il y a une vraie augmentation. Mais votre calcul, Pascal, n'est pas faux. Simplement, les Français ne l'entendent pas ainsi. Toujours pareil, parce qu'ils savent que derrière, il y a un volume de taxes qui est très important, et ils considèrent que l'État est un bouc émissaire par rapport à leur malheur.
Bah écoutez, merci de ce premier témoignage, Michel. On va être avec Serge et Fabienne dans une seconde. Je salue Damien Béchiot.
Bonjour Pascal.
Je salue toute l'équipe des auditeurs qui travaillent au Standard. Florence, Philippe et Victor sont là. Monsieur Olivier est là. Monsieur Olivier dit Monsieur Boubouk.
Bonjour Pascal et bonjour à
bonjour
tous.
Bonjour cher ami. Bonjour également à l'ami Laurent Tessier. Dans une seconde, il sera là à ce micro. On parlera évidemment de ce qui s'est passé hier soir sur le plateau de BFM. Comment vous avez vécu ce moment lorsque Valérie Pécresse a expliqué être présente en même temps mettant en cause d'une manière directe ou indirecte Jean-Jacques Bourdin. Vous nous direz ce que vous en pensez. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Pascal Praud,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Laurent Tessier.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. On en parlait hier et c'était évidemment le sujet qui retient votre attention ce midi. Il nous concerne directement. Chaque jour, chaque semaine, les prix des carburants s'envolent.
Et ça continue encore et encore. C'est que le début. D'accord.
Oui, et effectivement, c'est loin de s'arrêter, prévient Martial You, le chef du service économie de RTL.
Et je vous annonce déjà que la semaine prochaine, on battra de nouveaux records parce que le prix mondial du baril de pétrole continue d'augmenter.
Un record des prix à la pompe, le diesel a dépassé les 1,60€ le litre, 1,68€ pour le samplon 95, 1,76€ voire plus pour le samplon 98. Coup de gueule d'Alexandra Legendre, la porte-parole de la Ligue de défense des conducteurs.
Entre les taxes et puis l'anti-automobilisme rampant de la société aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué d'assumer d'avoir besoin de sa voiture tous les matins.
Alexandra Legendre, invitée de RTL ce matin, le ministre de l'économie Bruno Le Maire ne ferme aucune porte à de nouvelles mesures face à ces hausses. Alors, combien vous coûte un plein en ce moment? Pouvez-vous moins utiliser votre voiture? Faites-vous plus de covoiturage? Ce sujet doit-il être l'une des priorités de la présidentielle? Les automobilistes ont la parole. 3210, 3210.
Nous sommes avec Serge, Serge qui est gérant auto-école. Alors évidemment, c'est un professionnel comme Michel et que lui, la facture, il la sent sans doute passer. Bonjour Serge.
Bonjour Patrice.
Vous pouvez m'appeler Patrice, pourquoi pas, parce que c'est joli, mais c'est plutôt Pascal,
c'est
depuis 1964. Mais mon deuxième prénom, c'est Patrick. En revanche,
bon, bah, j'étais pas loin.
Pas loin. Dites-moi Serge, vous avez combien de voitures?
Alors moi j'ai 14 véhicules professionnels, je dirige deux auto-écoles sur Cherbourg, permis, un petit peu de pub. Mm-hmm. Donc je me suis amusé, mais ça m'a pas fait rire longtemps, j'ai demandé à ma comptable de me sortir le prix de ce que j'ai payé en essence en octobre 2019, octobre 2020, octobre 2021.
Ah ouais, ça c'est bien.
Ouais, eh ben non. Alors, octobre 2019, c'était une année, on va dire, normale, j'étais à 1100€. Mmh. Octobre 2020, j'étais à 800, parce qu'il y a eu le Covid, il y a eu tout ça, donc il y avait la reprise, c'était pas simple. Octobre 2021, 1600€. Donc j'ai 500€, alors je sais pas où vous trouvez vos 16€, vous, mais j'ai 1600, j'ai 500€ en plus en octobre 2021 par rapport à octobre 2019.
Donc, oui, mais vous, 500€ sur 16 voitures?
Oui, bah sur 16 voitures, même 500€ par ce que vous disiez, ça fait pas ça.
Hein. Mais, donc, moi c'est extrêmement simple. Moi j'ai pris le calcul suivant, 13 000 km par an. Vous êtes d'accord en moyenne pour un Français?
Oui, on en fait un peu plus, mais oui.
Oui, mais moyenne. Bon, il faut 1000 litres d'essence. Pour faire 13 000 km, on arrive à du 7-8 litres. En plus, je crois qu'on est en dessous, mais bon, j'ai calculé large. J'ai fait 7 ou 8 litres au 100. Eh bien, si vous faites 1000 litres en 12 mois, s'il y a 200€ supplémentaires en 12 mois, c'est 16€ par mois.
D'accord.
Une augmentation de 20%, c'est...
Je ne sais pas si vous prenez le prix de octobre 2019 par rapport à celui actuel, mais bon, peu importe. Moi, des solutions, il y en a. Hein. Moi, je trouve qu'il y a des solutions. Par exemple, moi, je fais mes pleins chez Leclerc parce que j'ai des cartes chez Leclerc et tout ça. Quand je vois que le GPL, parce que j'ai un véhicule GPL, que Leclerc marge à 20 centimes le litre de GPL, c'est-à-dire que quand il est sans marge, il est à 70 centimes, et quand il est normal, il est à 90 centimes, 20 centimes par litre sur un carburant comme ça, c'est juste aberrant, quoi. Donc il y a possibilité, peut-être, pour les grandes surfaces qui vendent des baguettes à 23 centimes, ils peuvent peut-être effectivement mettre à prix coûtant, et du coup, ça fait quand même une sacrée baisse. On a une autre piste aussi, c'est Total. Parce que au mois d'octobre 2021, quand je vous donnais le prix 1600€ pour ma flotte, Total multiplié par 23 ses bénéfices. au mois d'octobre 2021, revérifié, multiplié par 23 ses bénéfices au troisième trimestre. Et ils ont 4,6 milliards de bénéfices. Je pense qu'une société comme Total pourrait aussi faire un geste et au lieu de redistribuer à des actionnaires, pourrait aussi, parce que Total c'est quand même la grande majorité, sinon le quasi-monopole sur la France, pourrait aussi décider, au lieu de mettre des prix bas sur leurs stations, alors que les prix sont à 1,70, 1,80 le prix du gasoil, pourrait aussi redistribuer un petit peu en bas, parce que c'est quand même les fourmis qu'on est qui font les bénéfices. Donc des solutions, il y en a. Moi, ma dernière voiture que j'ai achetée, vous me demandiez mon parc, et ben c'est une électrique. C'est une électrique. J'ai acheté une électrique et les prochaines voitures...
Ça vous a coûté combien en plus?
Ça m'a coûté 45 000 euros.
Au lieu d'une
voiture telle qu'on les a, elles sont à 25, 30 000 euros.
Vous vous rendez compte, 20 000 euros de plus.
Et, ça, mais,
non mais c'est un investissement, c'est pas le même prix quand même.
Non, c'est pas le même prix, mais par contre quand je passe devant une pompe, je rigole.
Ah ouais, ben oui, ça c'est sûr que... Vous avez fait le calcul d'ailleurs, quand est-ce que vous retrouvez les 20 000 euros que vous ne mettez pas dans la pompe?
J'ai pas encore fait le calcul. Mais donc voilà, des solutions, il y en a. C'est toujours un manque de volonté. Et puis c'est pas en ce moment avec la période électorale qu'on va nous trouver.
Combien vous faites de kilomètres par an avec une voiture auto-école?
Avec une voiture, on fait à peu près 20 000 kilomètres par an.
20 000
À peu près, ouais.
Donc
parce qu'on est une
auto-école
de ville. Ouais. Mais je pense à mes collègues qui sont en hors agglomération, en campagne, et qui eux sont obligés de taper des kilomètres et des kilomètres. C'est juste insupportable. On a fait le choix pour l'instant de pas augmenter le prix de l'heure auprès de notre clientèle parce qu'on sait que c'est dur pour tout le monde, mais là on va être obligé d'augmenter. On a les PGE qui vont arriver au remboursement, on a les charges qui n'ont pas été comptées en 2019, qui nous sont redemandées maintenant. Au niveau des charges, on n'en peut plus, quoi. Et un autre sujet, je me permets de placer ça parce que c'est important, vous devriez vous intéresser aux places de permis. Hein, aux places de permis et aux inspecteurs du permis de conduire. Parce que dans la Manche, moi, là où je suis, sur 14 places que j'avais depuis le 1er janvier, j'en ai eu 9 qui ont été annulées.
Mais c'est intéressant parce que votre exemple, par exemple, admettons que pour faire les 20 000 kilomètres par an que vous faites, il vous faille 1 500 litres. Admettons, 1 500 multiplié par 1,60€, nous sommes d'accord. Donc, vous dépensez par voiture 2400 euros d'essence par an. 2400 euros d'essence. Donc, en 10 ans, en fait, bah vous aurez amorti votre prix de l'électrique. Je ne sais pas si ça vous fait plaisir ou pas, ce que je suis en train de vous dire. Mais vous achetez une voiture qui fait 20 000 euros de plus.
Ouais.
Donc, vous riez quand vous passez devant la pompe. Mais les 20 000 euros, c'est en 10 ans que vous allez les récupérer.
Non mais après c'est un choix. Les prochaines que je vais acheter ne seront pas à ce prix-là. Les prochaines que je vais acheter, ce sera pas une Nissan Leaf, ce sera une Dacia Spring. Et donc voilà. Après, si j'ai acheté ça, il y a d'autres raisons. Mais il y a des électriques en ce moment qui sont très bien et il y a beaucoup moins cher que celles que j'ai achetées. Si j'ai acheté un haut de gamme, c'est aussi qu'il y a des raisons pour ma clientèle et tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis permis d'acheter
une voiture
à ce prix-là.
Mais intéressez-vous aux places de permis. Je suis pas sûr que si je repassais le permis, je l'aurais.
Vous voulez. Et intéressez-vous aux places de permis, c'est intéressant.
Je suis d'accord avec vous, mais je vous dis, je ne suis pas sûr que si je repassais le permis, je l'aurais.
Eh bien, passez sur Cherbourg, permis B, on vous fera une leçon, ça nous fera plaisir.
Parce que je pense que j'ai dû perdre beaucoup de... Comment dire, de signalétique et de...
Ah, oui.
Bon, je fais attention quand même, bien sûr, hein, j'ai beaucoup de points. Mais évidemment, on n'est plus aussi performant.
Et en 2008, il y a eu 58 nouveaux panneaux du code de la route.
Et je ne sais même pas si j'arriverai à avoir le code.
Parce que
le code, il faut avoir une mémoire en état de marche.
Passez-nous voir ou envoyez Laurent Tessier, on lui fera passer un test.
Mais, et si je vous envoyais Monsieur Boubouk? Parce que Monsieur Boubouk, il aime bien voyager le week-end.
Envoyez-moi Monsieur Boubouk.
Regardez, je vais lui faire une petite plaisanterie, mais Monsieur Boubouk, je suis sûr qu'il ne va pas la saisir au bon. Cher ami Monsieur Boubouk, bonjour.
Bonjour Pascal.
Vous allez à Cherbourg ce week-end?
Mais oui, pourquoi
pas. Prenez votre parapluie.
Eh bien, allons-y. On y va?
Ah, c'est moche.
Il a pas compris.
Mais si, oh, Damien Béchiot, voyons.
Pourquoi?
Mais parce qu'il pleut souvent à Cherbourg.
Mais pas du tout.
Mais pas du tout.
C'est les parapluies de Cherbourg. Oh, c'est un film de Jacques Demy.
Encore une médaille à mon palmarès.
Vous savez ce qu'on pourrait faire, monsieur Boubouk? Se parler comme dans les parapluies de Cherbourg. C'est-à-dire qu'ils ne se parlent pas, ils chantent. Ils se disent, cher ami Boubouk, vous allez nous donner les infos de Facebook. Ce sera sympa. l'été.
Ah oui, mais c'est un bon concept. Pourquoi pas?
C'est ça, il chante comme ça. Ah bah, c'est Catherine Deneuve qui chante. C'est un film merveilleux de Jacques Demy. Bon, Cherbourg, merveilleuse ville et merveilleux film. Merci Serge.
Merci Pascal.
Vraiment,
désolé pour le louper sur le prénom.
Mais c'est pas grave, vous savez. 13h22, ça va pas du tout. 13h22, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro
et Laurent Tessier.
La polémique des vacances à Ibiza de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a fait le service après-vente pour s'expliquer hier en premier à l'Assemblée.
Il y a, je le reconnais, une symbolique. Il se trouve que le lieu que j'ai choisi, j'aurais dû en choisir sans doute un autre. La symbolique, je la regrette.
Jean-Michel Blanquer est ensuite intervenu un peu plus tard chez nos confrères de TF1. Il a répondu à toutes les voix qui s'élèvent pour demander sa démission.
Écoutez, on est en période présidentielle, donc je crois que le mot démission sera prononcé par bien des candidats très souvent. Je pense qu'il faut garder le sang-froid. Je comprends le symbole d'Ibiza. Bon, l'hiver, c'est pas du tout comme l'été. J'étais juste en plein air, en lien avec le gouvernement, le cabinet et les interlocuteurs, comme d'ailleurs... La chronologie le montre.
Qu'avez-vous pensé des explications du ministre? 32-10,
3-2-1-0. Nous sommes sur les carburants et nous sommes avec Fabienne. Bonjour Fabienne.
Bonjour.
Vous gagnez le SMIC et vous avez peut-être été choquée par ce que je disais tout à l'heure.
Ah non, je ne suis pas choquée. Hein. Chacun gagne. Voilà. Seulement, je me rends compte que je n'y arrive plus. C'est surtout ça.
Mais pas à cause des carburants.
Ça. Mais à cause de tout, il n'y a voilà, pas que le carburant. Ça. Mais parce ça en fait partie énormément. Énormément.
Combien de kilomètres vous faites par an?
J'ai pas calculé le nombre de kilomètres que je fais par an. Je calcule plutôt l'argent que je mets toutes les semaines dans la pompe. C'est plutôt ça. Le problème, c'est même pas les kilomètres, c'est l'argent. C'est l'argent. Je suis femme de ménage, j'ai 5 employeurs. Donc j'habite une petite ville, je fais un périmètre autour de Châtellerault de plus de 25 kilomètres, et ça tous les jours. Et je me rends compte que je ne suis plus. Il me reste, on va dire, 150 euros pour finir le mois entre la nourriture et tout ça. Parce que j'ai un loyer de 600 euros. Donc je pense que l'essence, c'est un, comment dire, c'est un global. C'est la goutte d'eau que je pense qui fait déborder le vase.
C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est indiscret de vous demander le salaire net que vous percevez chaque mois.
Eh bien, écoute, non, c'est pas indiscret du tout. Je gagne 1100 euros.
1100 euros net, voilà, avec 600. Net. Et est-ce que. Et pardonnez-moi
et
de vous poser.
600 euros de loyer.
Pardonnez-moi de vous poser ces questions. Est-ce que vous avez des aides? Est-ce que vous recevez des aides?
J'ai 110 euros d'allocation logement, c'est tout. Voilà.
Alors, évidemment, vous ne payez pas d'impôt sur le revenu.
Ah ben non, mais
effectivement, il vous reste, vous avez donc, une fois que vous avez votre loyer, donc vous avez une voiture, vous avez l'assurance.
Oui, j'ai l'assurance, donc, j'ai mon téléphone, parce que je suis obligée d'avoir mon téléphone.
Mais bien sûr, donc effectivement, je comprends que qu'effectivement, il n'y a pas de place pour aller au restaurant.
Non, je me suis abonnée à Netflix parce que je ne peux pas aller au cinéma. Ça, c'est un exemple. Voilà, parce que payer une place de cinéma à 8-9 euros, c'est pas possible. C'est pas possible.
C'est-à-dire que chaque argent qui sort de votre compte, toute dépense est pensée, organisée. Vous ne pouvez pas vous permettre une dépense de 5 ou de 10 euros au hasard.
Non. Je fais mes courses, je vais faire mes courses le samedi matin. Je pars à 8h30 de chez moi pour pouvoir aller au champ où on fait les produits qui vont arriver en date de péremption à moins 50%. C'est ça la France.
Vous avez parfaitement raison, Fabienne. Et c'est pour ça que c'est très important que vous puissiez témoigner parce que, hélas, cette parole-là, on l'entend peu. Et on ne se rend pas compte ce que c'est, et je le dis vraiment, on ne se rend pas compte ce que c'est que vivre chaque mois avec 1100 euros dans son portefeuille une fois qu'on a payé. Parce que 600 euros, la voiture, vous savez combien ça vous coûte par mois
La voiture, j'ai un ami qui est mécanicien, donc dès que j'ai un petit problème, je vais vers lui.
Mais l'assurance, vous payez combien d'assurance par an, vous le savez?
C'est pas compliqué, je donne 35 euros par mois multiplié par 12, voilà.
Bon, on marque une pause, restez avec nous Fabienne, parce que vraiment ce témoignage, il est extrêmement intéressant, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Venez partager votre avis au 3210. 50 centimes la minute. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Laurent Tessier.
Un nouveau sujet dans quelques minutes. Qu'avez-vous pensé des déclarations de Valérie Pécresse hier soir devant Jean-Jacques Bourdin? La candidate Les Républicains était l'invitée de l'émission La France dans les yeux sur BFM. Le journaliste fait l'objet d'une plainte pour soupçon d'agression sexuelle. Il conteste les faits. Et Valérie Pécresse a démarré l'émission par ces mots.
Je me suis clairement posée la question de ma participation à cette émission ce soir. Si ces accusations sont avérées, elles sont graves et elles doivent être condamnées. Le combat contre le harcèlement sexuel et contre les violences faites aux femmes est un combat personnel pour moi. Trop longtemps, la société a regardé ailleurs, a fermé les yeux. Et présidente de tous les Français, je ne laisserai plus aucune femme avoir peur de porter plainte.
Je voudrais ajouter, j'ai décidé de ne pas m'exprimer à ce sujet, mais je conteste les faits. Et je laisse la justice faire son travail.
La loi du silence, c'est fini, dit Valérie Pécresse. Vous pouvez réagir dès maintenant, 3210, 3210.
Nous sommes sur le sujet des carburants, mais on a un peu dévié parce que nous sommes avec Fabienne, qui est femme de ménage, qui gagne 1100 euros net par mois, qui ne reçoit en tout et pour tout d'aide que 110 euros d'aide au logement, qui a un loyer qui représente 50% de son salaire, 600 euros, et qui est effectivement dit « je n'y arrive plus », ce qu'on comprend aisément, puisqu'il reste pour l'assurance, la voiture, l'alimentation.
Il ne faut pas oublier aussi le chauffage.
Oui, bien sûr.
Qui actuellement, parce qu'il y a l'électricité qui a fortement augmenté, et si j'ai bien compris, c'est pas terminé, le chauffage. Donc, on est aussi obligé de faire attention au chauffage. En fin de compte, on vit en permanence avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, en se disant, est-ce que je vais bien finir le mois? Est-ce que ceci, est-ce que cela? En prenant aucun plaisir. C'est ça. Parce que vous vivez toujours sous la tension de vous dire, il ne faut pas que je sois malade, faut pas. Moi, en plus de ça, j'ai une maladie auto-immune, j'ai des douleurs permanentes tout le temps. Et croyez-moi bien, quand on est femme de ménage, ça.
C'est ce que j'allais vous dire, parce que je peux dire votre âge également, Fabienne?
Oui, bien sûr.
Vous avez 55 ans, vous êtes employée de maison depuis combien de temps?
Eh bien, écoutez, j'ai toujours fait ça. J'ai toujours fait ça chez des docteurs, je travaille que chez des gens comme ça, qui sont très gentils, qui m'apprécient beaucoup, je les apprécie beaucoup.
Mais vous ne pouvez pas faire ça éternellement.
Oui,
mais vous ne pouvez pas faire ça éternellement parce que c'est très fatigant, vous avez 55 ans.
Je pousse toujours.
Et vous savez quand est-ce que vous allez... Vous avez déjà calculé votre retraite et vous savez quand est-ce que vous allez vous arrêter?
Je ne sais pas. Mais
vous pouvez vous arrêter parce que si vous vous arrêtez, vous n'aurez pas le même salaire qu'aujourd'hui.
Ah ben non. Donc,
par exemple, vous n'avez pas pu, dans votre carrière professionnelle, vous avez été dans l'impossibilité d'acheter une maison ou un appartement qui déjà...
Ben non, en vivant seule, c'est pas possible. J'ai élevé ma fille seule. C'est pas possible. C'est pour ça que j'ai toujours fait tout ce que j'ai pu pour que... qu'elle ait une meilleure situation que moi. Je me suis serré la ceinture pour pouvoir lui payer le permis. Plein de choses comme ça.
Et votre fille aujourd'hui, vous êtes satisfaite de vie professionnelle qu'elle a?
Oui, ma fille est très heureuse. Elle a acheté une maison avec son compagnon. Et je sais que je peux compter sur elle. Mais c'est pas une solution.
Bien sûr, vous avez parfaitement raison. Alors, la campagne présidentielle se met en place. Qu'est-ce qu'il faudrait, par exemple, pour vous, Fabienne, pour que la vie soit, sur le plan financier, soit plus belle?
Gagner un peu plus. Que le SMIC soit un peu remonté, quand même.
Mais alors, compliqué. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais visiblement, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a une mesure, par exemple, est-ce qu'il faudrait qu'entre les charges salariales, peut-être, soient moins importantes? Vous payez forcément, entre le brut et le net, vous avez, comme tout le monde, 15% ou quoi. Je ne sais pas si sur le SMIC, c'est comme un salaire classique. C'est 25% sur un salaire classique, mais peut-être que les charges salariales sont moins importantes sur un SMIC.
Je ne sais pas. Mais je pense que voilà. Et puis il y aurait moins de charges, peut-être qu'aussi il y aurait moins de chômeurs, parce que les gens. Moi, je sais que j'ai ma sœur qui est fleuriste, qui a un magasin. Comme elle dit, je pourrais embaucher des fois des personnes au moment des fêtes et tout, mais elle ne le fait pas. Voilà, on se débrouille entre nous pour se donner un coup de main. Votre vie, parce que c'est pas possible.
La réalité de votre vie financière, c'est que en permanence, j'imagine, vous êtes en difficulté sur votre compte bancaire.
Non, parce que je prends pas de risque, qui dirait. Voilà, c'est tout.
Donc vous n'êtes jamais en rouge.
J'ai limite, il m'arrive d'avoir 100, 200, mais je fais en faisant très attention à tout. Vous arrivez, je m'habille en brocante, voilà. Mais par contre, faut jamais, faut pas qu'il y ait le moindre pépin, quoi.
Et vous avez réussi à ne pas souscrire de crédit ces dernières années, parce que
c'est juste frais. J'avais pris un crédit pour ma voiture. Mmh. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. De toute façon, avec un salaire comme ça, des crédits, vous savez, on vous en octroie pas. Voilà, c'est pareil. Hein.
Ce qui me frappe dans ce que vous dites, et c'est, je trouve que c'est terrible en fait ce que vous dites, Fabienne, parce que vous dites je n'ai aucun plaisir.
Ben non. Si vous vivez à deux, vous pouvez encore, deux SMIC, vous pouvez encore arriver à certaines choses. Mais si vous êtes tout seul, c'est impossible. C'est impossible, pas avec des salaires comme on a actuellement en bas d'échelle. Et je pense que, tous nos politiques, enfin une bonne partie, ne se rendent pas compte de ce qu'on peut vivre tout à fait en bas.
Mais je suis d'accord avec vous, mais pas que les politiques, Fabienne.
J'entendais M. Macron dire, la cordée, mais quelle cordée? Si on n'est pas là, nous, tous les petits gens, là, mais comment ça se passe? Comment ça se passe?
Merci, Fabienne. Merci de votre témoignage et
c'est toujours pareil. Je suis très content d'avoir parlé.
Mais non, mais je vais vous dire, c'est très simple, si j'ose dire, c'est que on ne peut pas transmettre l'expérience. Donc personne, c'est pour ça que parfois, peut-être faudrait-il que les gens qui nous gouvernent soit dans une situation pendant un an de vivre avec 1200 euros par mois quand tu sors de l'ENA. Je dis quelque chose d'un peu démagogique, bien sûr.
Mais c'est vrai. Bon. C'est vrai.
Mais on ne peut pas. Je veux dire, il n'y a que vous qui savez, et vous en parlez d'ailleurs très très bien, précisément la difficulté de vivre aujourd'hui avec en plus un horizon qui n'est pas sur le plan financier, qui ne s'éclaircit pas. C'est pour ça qu'il faut sans doute pour ces salaires comme le vôtre, parce que idéalement, et ça sera ma dernière question, quelle est la somme qu'il vous faudrait par mois, selon vous, pourrait justement que cet horizon s'éclaircisse?
Moi je demande pas le. Moi je demande, 200, 250 euros en plus. Voilà, je demande pas des millions, loin de là. Moi je suis payée 9,90 € de l'heure pour faire du ménage, congé payé inclus.
Fabienne,
tous les mois.
Je vous assure, ce témoignage, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont en train de vous écouter et qui sont peut-être dans leur voiture, qui sont chez eux. Ce témoignage de la réalité, ce témoignage du quotidien, je maintiens que les médias ne leur donnent pas assez d'espace. C'est pour ça fait maintenant quasiment un quart d'heure qu'on parle ensemble, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont attentifs à ce que vous dites.
J'espère, parce que je sais qu'on est plein dans cette situation.
Merci beaucoup Fabienne, vraiment merci beaucoup. Bon courage vraiment à vous.
Merci beaucoup.
Parce qu'il y a vous en parlez avec beaucoup de dignité et beaucoup d'élégance. Et merci beaucoup à vous Fabienne de ce témoignage.
Quelque part, c'est moi qui vous remercie, ça fait toujours du bien de parler.
Mais c'est pas facile parce que je vous pose des questions indiscrètes.
Non, c'est pas indiscret, c'est ma vie, c'est la vie de plein de personnes en France. Voilà, il n'y a pas que moi.
Écoutez, on vous embrasse en tout cas. Vraiment, merci beaucoup,
merci
Fabienne.
Beaucoup.
Et vraiment, on va garder vos coordonnées parce que c'est intéressant d'avoir votre sentiment, pourquoi pas même pendant cette présidentielle. Merci beaucoup, Fabienne. Il est 13h40.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et Laurent Tessier, c'est vrai que le témoignage de Fabienne, il y a beaucoup d'appels et beaucoup de SMS et beaucoup de tweets qui tombent parce que les gens, effectivement, ont été très, très intéressés.
C'est la vraie vie qui s'exprime dans l'émission.
Et peut-être bouleversés aussi parce que disait Fabienne.
Continuez de venir prendre la parole dans l'émission, venir témoigner, donner votre avis sur d'autres sujets, par exemple. Ah oui, c'est la fin de la remontada. Arnaud Montebourg a annoncé dans une vidéo qu'il se retirait de la course présidentielle. On le voit marcher sur les hauteurs du site de Bibracte en Saône-et-Loire.
Je suis venu ici, sur cette terre qui m'est chère, vous dire que je n'ai pas réussi à unir dans un programme commun ma candidature à d'autres candidatures. Le moment est donc venu pour moi de vous dire que j'ai pris la décision de me retirer de la course présidentielle. J'ai décidé de ne soutenir aucun candidat, puisque ces perspectives tracées pour le pays ne sont pas partagées.
Et Arnaud Montebourg, qui était crédité de 1% des intentions de vote par les sondages, vous pourrez là aussi réagir au 3210, 3210.
Est-ce qu'on est encore sur les carburants? Quelques secondes encore avec Pascal qui habite au Serre, qui est agriculteur. Bonjour Pascal.
Oui, bonjour Pascal, joli prénom.
Oui, nous sommes de la même génération. C'est tous les Pascal sont nés entre 60 et 70. Après, visiblement, la source est tarie.
Ça va revenir.
Bon, vous avez écouté le témoignage de Fabienne, Pascal?
Oui, bien sûr, oui, oui. C'est effectivement une réalité que je connais aussi dans mon quotidien. Je connais des gens qui sont, des personnes qui sont dans la situation de Fabienne et je comprends bien. Ce que j'ai pu noter tout de même, c'est effectivement que le carburant n'est pas l'essentiel du souci.
Bien sûr.
Si on prend le pourcentage des dépenses d'un foyer et de Fabienne en particulier, on peut noter que l'habitation. L'habitat a beaucoup augmenté dans le budget. Et puis, je pense également qu'on est beaucoup plus sollicité qu'en 72, parce qu'il me semble que c'est l'année que vous avez pris en référence concernant le prix du carburant par rapport au SMIC, quoi.
C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le budget contraint. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si vous avez des enfants chez vous, vous ne pouvez pas ne pas les abonner à un téléphone. C'est quasiment impossible. Alors,
Donc, ce
budget contraint, tu es obligé d'investir dans un téléphone si tu as un ado chez toi qui a 16 ou 17 ans. C'est impossible de lui dire que tu n'as pas de téléphone. Et alors qu'avant, effectivement, ce qu'on appelle le budget contraint était sans doute plus faible.
Alors, le but de mon appel n'était pas exactement celui-là. C'était pour exprimer un petit peu je suis un peu déstabilisé quand on parle du rang. Effectivement, c'est un budget. On est tous, à peu près tous, obligés d'y passer. Mais demain, sur RTL ou ailleurs, on va faire un sujet concernant le réchauffement climatique. Et c'est bel et bien ces énergies fossiles qui sont un des gros problèmes de l'humanité aujourd'hui. C'est-à-dire que l'humanité aujourd'hui, elle est en position de fragilité. Si les températures moyennes de la planète elles montent jusqu'à plus 3, 5, plus 4 peut-être même en 2080, on n'en sera plus à discuter de notre petit pouvoir d'achat, quoi. Moi, ça me fait très peur qu'on ne soit pas capable de prendre tout ça d'une façon globale et voir ce qu'on peut faire pour consommer autrement, peut-être consommer moins. Enfin, le prix du carburant en 2080, ça nous fera plus rire, mais ceux qui seront
en
là.
En 2080
à ce moment-là, oui.
Dans 60 ans, ça, c'est loin quand même.
On fait partie d'une humanité. On est dans la même humanité.
En 2080, je ne sais pas si on roulera encore à l'essence.
Le réchauffement, il aura continué, voyez-vous. Le réchauffement aura continué.
Ou pas, Pascal. Ou pas.
Aujourd'hui, tous les scientifiques sont à peu près d'accord pour dire que le réchauffement climatique va augmenter et qu'on va en payer le prix tout de même. Je pense que dès aujourd'hui, on voit ce qui se passe avec des problèmes climatiques plus importants. Des périodes de chaleur plus importantes et des périodes de pluie plus importantes, on le note déjà dans nos latitudes tempérées. Donc je pense qu'on ne peut plus aujourd'hui le nier. Alors voilà, et essayons de ramener le débat, bien sûr, sur aujourd'hui le prix du carburant, c'est un problème pour beaucoup, mais on doit aussi réfléchir à comment se fait-il qu'on en soit arrivé là et quelles sont les orientations possibles pour pouvoir en sortir. Alors, je suis agriculteur et aujourd'hui, les agriculteurs qui utilisent de l'engrais, l'augmentation du prix, ce n'est pas 20, 30, 40%, c'est 300%. Les engrais, en environ 2 ans, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais environ 2 ans, ont augmenté de 300%. Alors, le prix du blé a augmenté aussi un peu, mais c'est énorme. c'est un problème que l'agriculture soit à la merci de l'énergie fossile. L'agriculture fait partie notre agriculture aujourd'hui, elle est contrainte de passer par cette énergie fossile, et c'est un problème. Alors, il faudrait viser l'autonomie, peut-être produire moins. Moi-même, je suis en agriculture biologique, donc je produis beaucoup moins que ceux qui utilisent ces engrais. Mais je pense que la société veut encore manger pour pas trop cher. C'est encore le cas aujourd'hui. C'est évident qu'en agriculture biologique, on produit tout de même à plus cher.
Pascal, merci pour ce témoignage. On a compris le sens de ce que vous vouliez nous dire. Et vraiment, je vous en remercie grandement. Vous étiez le dernier témoignage sur les carburants et la difficulté de s'adapter à ces hausses. Dans un instant, on va parler de Jean-Michel Blanquer. Mais nous partons pour la planète Facebook.
La planète Facebook, eh oui, Pascal. Oui, je suis l'astronaute de Facebook.
Parapluie de Cherbourg. Vous avez vu quand même des films de Jacques Demy?
Écoutez, voilà, je me suis renseigné, c'est un film, effectivement. Voilà.
Là, bah oui, et allez voir Les Demoiselles de Rochefort également.
Ah bon?
Vous allez de Cherbourg à Rochefort, c'est.
D'accord.
C'est une petite trotte, mais ça peut être sympathique.
Eh ben, je vais faire ça, Pascal, merci pour les conseils.
Nous sommes des sœurs jumelles, comme vous le savez.
Qui? Vous et moi?
Non. C'est Les Demoiselles de Rochefort. Nous sommes des sœurs jumelles, mais sous le signe des deux.
D'accord, j'ai cru vous et moi, Pascal, je me
non,
suis.
Nous,
confondu.
Non, nous sommes pas encore.
Sur nos réseaux sociaux.
Que nous dit-on ?
Thierry nous écrit, c'est simple. Tous les jours, ça prend 5 centimes en plus, mais tout va bien. Parlons à la place de Covid aux Français. Pour Nicolas, les candidats à l'élection présidentielle se foutent de notre pouvoir d'achat depuis bien longtemps. Et on termine avec Étienne. Arrêtons avec les carburants. Il faut changer notre manière de vivre et de consommer, comme disait Pascal.
Eh bien, Pascal.
Pascal Lolita ?
Oui.
Ah oui.
Oh. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do.
Ah oui, je connais.
Vous savez que quand vous ennuyez dans un dîner, Monsieur Boubouk, vous demandez aux gens quels sont vos 10 films préférés.
D'accord.
Comme ça, ça donne une petite conversation.
Et si je dîne seul?
et évidemment, les films qu'on aime en disent beaucoup sur soi, vous êtes
oui,
d'accord? Et bien, parmi les 10 films que je préfère au monde, je pense que je mettrais dans cette série-là, dans cette liste-là, je mettrais Les Demoiselles de Rochefort.
D'accord.
Qui est un film vraiment formidable de Jacques Demy avec la musique de Michel Legrand. Il y en aurait d'autres, bien sûr, mais ce film-là, je pense que je le mets dans mes 10.
Eh bien, je vais vous l'offrir.
Ah non, puisque je l'ai déjà.
Ah mince.
Et il ne se passe pas 18 mois sans que je ne le regarde.
Très bien.
Il y a Daniel Darieux, c'est vraiment extraordinaire.
On pourrait faire une séance alors.
Catherine Deneuve, Françoise d'Orléac, sa sœur. C'est un film merveilleux. À tout de suite, les amis.
Nous sommes toutes deux joyeuses et ingénues, attendant de l'amour ce qu'il est convenu.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Laurent Tessier.
On va continuer en chanson. C'est une musique pour enfants bien connue des parents, Baby Shark. La chanson vient de pulvériser un record. Elle devient la première vidéo sur YouTube à dépasser les 10 milliards de vues du jamais vu sur la plateforme. Alors s'il y a des musiques comme cela qui vous rentrent dans la tête toute la journée, dites-nous lesquelles au standard. Parlez-nous aussi de Claude Lelouch, immense réalisateur.
Ah oui.
Son film L'amour, c'est mieux que la vie, vient de sortir au cinéma. Alors quel film de Lelouch vous a marqué peut-être?
Ah oui.
Un homme et une femme en 66.
Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimé dans la Ford Mustang. Mais vous savez que c'est son 50e film. Je l'ai vu, c'est absolument formidable. Courez-y, allez-y. La vie, l'amour, c'est mieux que la vie. Y a les Lelouchiens, fans de Lelouch, les uns et les autres, évidemment. Itinéraire d'un enfant gâté, La bonne année.
La bonne année, c'est magnifique.
La belle histoire, moi j'adore La belle histoire, que je trouve effectivement avec Béatrice Dalle, Vincent Lindon, Gérard Darmon. Bon. Après, il y a ceux qui sont un peu allergiques, mais ceux qui n'aiment pas Lelouch, c'est qu'ils n'aiment pas la vie. Voilà, ils n'aiment pas l'amour, ils n'aiment pas
c'est
les cachant. Sentiments.
Et c'est bien, c'est bien.
Mais c'est merveilleux,
Pascal.
Merveilleux. Et puis les acteurs ne sont jamais aussi bien que chez Lelouch. Un homme qui me plaît, par exemple, avec Annie Girardot et Jean-Paul Belmondo et Yves Montand, c'est formidable, c'est formidable. Toute une vie, qui est un film avec André Dussolier, Charles Denner, quel acteur, Robert et Robert.
Quelle idée d'amour.
Vraiment, moi j'adore, je suis un fan de Lelouch. Jean-Alphonse.
Je partage, mon cher Pascal. Je suis moi aussi un fan de Lelouch.
Qui a fait des polars hein, de temps en temps.
Un petit peu sur le.
Ah, ben il a fait un polar avec Patrick Bruel. Le chat et la souris, c'était un polar. Si c'était à refaire, très joli film avec Catherine Deneuve et Francis Huster.
C'est pas forcément sa cam, on l'attend peut-être pas là-dessus.
Les polars ?
Oui.
La Bonne Année, c'est un polar.
La Bonne Année, oui.
Le Voyou. Le Voyou.
La Bonne Année.
Le Voyou.
Tout à fait.
Avec Jean-Louis Trintignant. Bon, alors, le programme, donnez-nous le programme.
Un voyou aussi, on peut le dire comme ça. Aujourd'hui, je vous propose La Vengeance du Gardien de Nuit.
Ah.
Alors, c'est l'histoire de Jean-Baptiste Henquin. Sûrement, je ne pense pas que ça vous dise grand-chose, mais gardien de nuit du plus grand hôtel et du plus bel hôtel de Saint-Quentin dans l'Aisne. Un homme cultivé, lettré, passionné de botanique, et bien qui va se transformer en un meurtrier implacable. En quelques heures, il va tuer dans cet hôtel qu'il connaît si bien le propriétaire, la gérante et la réceptionniste. Alors on se demande ce qui a pu se passer, ce qui a pu traverser la tête de cet homme de 61 ans qui adore le silence, qui détestait sans doute qu'on le contredise. On va vous expliquer pourquoi il a tué tout le monde en quelques minutes.
Ah oui, parce que si tous les gens qui ne veulent pas être contredits se mettaient à tuer tout le monde...
Il a un côté, c'est le moins qu'on puisse dire, un peu psychorigide, oui, notre ami Jean-Baptiste Henquin, mais il y a autre chose. Voilà, on vous raconte tout dans l'heure du crime, 14h30.
Il est 13h58. On va se faire une petite bande originale des films de Lelouch avec. Il y a une très jolie musique et également du Bon et les Méchants. C'est une musique de Philippe. C'est Philippe Labro qui avait écrit les paroles. C'est Jacques Dutronc qui chante La Ballade du Bon et des Méchants. Trouvez ça, Damien Béchiot. C'est vraiment.
Je me lance à la recherche.
C'est formidable. A tout de suite avec Agnès Bonfillon. Qui pourrait jouer dans les films de Lelouch.
Ah, oh, c'est gentil.
Et on va vous faire un flash, ça va être un homme et une femme. A tout de suite.
Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr.
RTL. Il est 14h01. Il y a des jours, il y a des lunes. Le flash avec Agnès Bonfillon.
Des coups de feu en plein centre de Nice. Là, c'est passé en fin de matinée dans le quartier de la Buffa. Un homme a été tué lors de ces tirs. Des tirs qui auraient eu lieu durant une opération de police. On reviendra évidemment sur cette information avec notre reporter sur place. Emmanuel Macron à l'offensive devant le Parlement européen. Premier discours de la présidence française de l'Union avec un président justement qui déroule ses priorités. Intégration du droit à l'avortement et de la protection de l'environnement dans la charte des droits fondamentaux de l'Union par exemple, mais aussi nouvel ordre de sécurité avec l'OTAN face à la Russie, sans oublier la réforme de l'espace Schengen. Forcément, la campagne présidentielle n'est pas loin, mais c'est depuis son déplacement à Calais qu'Éric Zemmour a réagi.
L'Europe doit s'armer, non pas par défiance vis-à-vis des autres puissances, non.
Le son d'Éric Zemmour, est-ce qu'on l'a ? Non, on ne l'a pas, mais on l'écoutera un petit peu plus tard. Éric Zemmour, donc, qui est à Calais, en déplacement aujourd'hui. Un Gaël Monfils magistral à l'Open d'Australie. Vite fait, bien fait, le Français s'est qualifié pour le troisième tour en battant le Kazakh Alexander Bublik. 6-1, 6-0, 6-4 en 1h29 à peine. Les gars, je suis de retour. Voilà ce qu'a lancé Gaël Monfils au public à la fin du match. Et puis à retenir également dans l'actualité, Boris Johnson annonce la fin de l'essentiel des restrictions en Angleterre. Et puis sachez que cette fois c'est officiel, Hatem Ben Arfa sera un dog. Il signe à Lille pour 6 mois. Il n'y avait plus de masque, non ?
Plus de masque, aucune restriction.
Visiblement, l'essentiel des restrictions, c'est terminé.
Ça, c'est bien.
Outre-Manche.
Ça, c'est bien.
La météo demain. Une perturbation pluvieuse et neigeuse va traverser toute la France du nord-ouest au sud-ouest. La neige pourra tomber jusqu'en plaine dans la moitié est. Des éclaircies reviendront au nord de la Loire en cours d'après-midi. Le soleil résistera sur le littoral méditerranéen grâce ou à cause, c'est selon, au Mistral et à la Tramontane. Les courses à Cagnes-sur-Mer, il fallait jouer le 9, le 7, le 3, le 10 et le 4. Ce n'est pas Nicole Croisy qui vous rend l'antenne, mais c'est Agnès Bonfillon.
Dans les films de Lelouch. 14h03, merci Agnès.
Merci.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Nous sommes avec Lucas pour évoquer Jean-Michel Blanquer qui a fait un petit mea culpa, un double mea culpa, d'abord à l'Assemblée nationale hier et puis hier soir au journal de 20h de TF1. Il y a, je le reconnais, une symbolique, a-t-il dit. Il se trouve que le lieu que j'ai choisi, j'aurais dû en choisir sans doute un autre. La symbolique, je la regrette. Bonjour Lucas.
Bonjour.
Quel est votre sentiment? Vous êtes étudiant et vous habitez le Vaucluse.
Alors, le sentiment, alors déjà quand on parle de mea culpa, peut-être qu'il faudrait utiliser un autre mot. On a l'impression qu'à certains moments, il y a une espèce de la poussière est mise sous le tapis. Pour moi, ce qu'a fait Jean-Michel Blanquer hier, c'est pas un mea culpa. Ou alors, si c'est un mea culpa sur le fait d'une symbolique d'Ibiza, je pense qu'il s'est trompé. Ce qui est gênant, c'est pas qu'un ministre parte en vacances. Il pourrait partir à Punta Cana, à Varsovie, à où il veut. Ça, c'est pas gênant. Ce qui est gênant,
bah, il pourrait pas d'ailleurs parce qu'il faut être à 2 heures de Paris, vous voyez.
Oui, il faut être à 2 heures de Paris, mais
Punta Cana, c'est pas dans la norme.
C'est pour vous dire, il aurait très bien pu partir dans un autre endroit. C'est pas la symbolique d'Ibiza qui est gênante. Ce qui est gênant, moi, je vais vous dire, c'est de dévoiler un protocole sanitaire dans un article payant la veille pour le lendemain à 17h, voilà, pour des milliers, des millions d'élèves. Et en plus de savoir que ce protocole a été fait à un moment où le ministre était en vacances. Heureusement qu'il existe des journaux, voilà, comme Mediapart, qui nous permettent d'apprendre ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est pas un mea culpa qu'il faut faire. Je veux dire, c'est symptomatique de toute la communication depuis le départ du gouvernement. Si ce gouvernement fait des erreurs, ils n'ont qu'à le dire très clairement.
Mais c'est un dimanche, oui. Comment dire, vous parlez, vous dites qu'il est en vacances. Il n'est pas à Paris, mais lui dit « je travaillais ». Par exemple, il est 24 heures sur 24, dit-il, hein, « je me fais l'avocat du diable » ou l'avocat de Jean-Michel Blanquer. Alors, en l'espèce.
En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que le protocole est sorti sur un article payant la veille pour le lendemain. Alors, si vous voulez conjuguer...
Mais l'article de Mediapart, il souligne d'abord qu'il était à Ibiza. S'il n'y avait que le fait que le protocole soit sorti le dimanche pour le lundi, ça ne posait pas le tollé, ça ne faisait pas le tollé qu'il y a depuis 24 heures. Fait le tollé, c'est Ibiza.
Alors, moralement, moi, je trouve un petit peu moyen, pour ne pas dire insultant, le fait d'être en vacances et d'avoir...
Moralement, c'est-à-dire que c'est l'esprit Robespierre que vous avez. Vous avez 21 ans, c'est bien, il faut l'avoir à cette époque-là. Mais moralement, vous trouvez que c'est pas bien.
Je pense que c'est plutôt du bon sens. C'est-à-dire on ne part pas voilà, en vacances, en tout cas à ce moment où on avait des pics de Covid qui étaient quand même globalement assez importants, où on attend des prises de parole fermes, on attend de voir Jean-Michel Blanquer.
Donc le 31 et le 1er janvier, vous considérez que tous les ministres de la République doivent être sur le pont?
Alors, quand il y a plus de 300 000 contaminations par jour, oui, je pense que oui, ils doivent être sur le pont, parce qu'il ne faut pas oublier quand même de préciser une chose, ils ont tendance peut-être parfois à l'oublier, c'est que les hommes politiques sont à notre service. Et ça, il ne faut jamais, jamais, jamais l'oublier. Ce sont des personnes qui sont ici pour dire les sentiments des Français, pour prendre des décisions qui conviennent aux Français. Alors, quand on a un président qui nous dit, voilà, emmerdez les non-vaccinés, etc., un ministre qui part... Qui part en vacances et qui dévoile le protocole de cette manière, et puis après tout, il ne le dit même pas qu'il est parti en vacances, on est obligé de l'apprendre par un autre média.
Je me fais un peu l'avocat du diable parce que j'ai dit hier que je trouvais que sur le plan de la symbolique, c'était une erreur d'aller à Ibiza, je suis d'accord avec vous, c'est une erreur, j'ai pas envie forcément de l'accabler, mais c'est une erreur parce que, pour les raisons que vous dites d'ailleurs, la manière dont c'est perçu. Ce qui m'a ennuyé, Lucas, si j'ose dire, si vous me permettez, parce que vous avez 21 ans, c'est moralement. Je n'aime pas quand la morale arrive dans ces sujets-là.
Elle
peut se nicher ailleurs, mais moralement, ça me fait toujours peur. Vous savez, là, il y a une phrase célèbre, la corruption me dégoûte et la vertu me donne le frisson. Et je me méfie beaucoup de ceux qui donnent des leçons de morale.
Alors, moi, je ne donne pas de leçon de morale, je ne fais juste constater...
Ah bah, vous avez le droit de la donner, d'ailleurs. Mais sous le plan moral, c'est pas bien, donc c'est une leçon de morale.
Si un protocole ne bouge pas entre 400 contaminations par jour et 300 000 contaminations par jour, et qu'on arrive à avoir bonne conscience en se disant « je dévoile le protocole de cette façon et je suis très loin », pour moi, je pense qu'on a un problème de morale. Vous savez, il va falloir vraiment, à la fin de cette pandémie, que l'ensemble de l'exécutif se regarde dans le miroir et vraiment, vraiment fasse son mea culpa. Il paraît que ça s'appelle la présidentielle.
En tout cas, vous êtes un excellent intervenant, Lucas. Vous avez 21 ans. Je sais pas en quoi vous êtes
en histoire, géographie,
en histoire, mais je ne doute pas que vous ayez un avenir politique. Pourquoi pas d'ailleurs?
Pourquoi pas.
Une énergie et une qualité dans ce domaine.
Il faut l'avoir.
Bon, je vous imagine pas franchement à droite.
Oh, on verra, ça, je ne sais pas, hein, la vie est faite de surprises, vous savez.
Mais aujourd'hui, vous êtes plutôt de l'autre côté.
Alors aujourd'hui, moi je suis citoyen, et puis citoyen qui raisonne par le bon sens et par ses convictions.
Ben merci en tout cas, Nézi. C'est pas la première fois que vous nous appelez, Lucas.
Ah non, c'est pas la première fois, je suis déjà passé quelques fois.
Ouais, moi je trouve que c'est très intéressant cet échange, et puis on aime bien avoir des jeunes gens, évidemment, parce que c'est intéressant de voir comment la société évolue. Donc vous avez 21 ans et votre avis nous intéresse fortement. Merci beaucoup, Lucas. Bonne journée, 14h09. On voulait parler de Jean-Jacques Bourdin, de Lelouch, de Blanquer. Je sais pas si on aura le temps de parler de tout ça. Est-ce qu'on a la petite chanson que j'ai demandé du bon et des méchants avec
bien sûr, Pascal.
Les paroles? C'est Philippe Labro.
Est-ce que tu m'aimes?
Voilà.
Bien sûr que je t'aime. Quelle question. Sur les photos de ma jeunesse, une étrange.
Très très belle chanson. Hein. L'amour. Et Philippe Labro qui est historiquement passé par la grande maison rouge du RTL.
Aujourd'hui, je sais.
A tout de suite.
Aujourd'hui j'ai fait.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Tu parles à Dieu comme à tes femmes. Tu fais du mensonge et du charme.
C'est le 50e film de Lelouch qui sort aujourd'hui. L'amour, c'est mieux que la vie. Donc, vous pouvez aller le voir parce que vous ne serez pas déçus. Christian est avec nous pour parler de Jean-Michel Blanquer. Bonjour.
Bonjour, Pascal. Comment allez-vous?
Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de couper un arbre?
Non. Je suis en proximité d'un mécanicien qui est en train de réparer une moto.
Ah bah voilà, oui, effectivement. Vous faites bien de nous appeler près d'un mécanicien qui répare une moto, parce que c'est le meilleur. Pour parfaitement vous écouter, à mon avis, c'est une bonne chose.
Voilà, mais là, il se calme un petit peu, donc je vais garder un peu. Voilà.
Alors, dites-nous ce que vous en pensez de Jean-Michel Blanquer et de son mea culpa.
Alors moi, ce que je voudrais dire, déjà d'une part, c'est que je suis pas du tout ni pour Macron ni pour les membres de son gouvernement. D'accord, pour moi, c'est les gens qui n'ont pas géré le quinquennat comme il aurait fallu. Mais ça c'est autre chose. Ce que je pense, c'est tout simplement de Jean-Michel Blanquer, c'est que malgré tout, il reste un homme et que c'est un homme qui, comme tout le monde, a le droit de prendre des vacances. Donc à faire des polémiques sur le fait qu'il prenne des vacances à un moment précis et surtout à un lieu précis, je trouve ça un petit peu grave. Et tous les opposants, je veux dire, à la majorité actuelle, tout de suite sortent sur ce fait-là pour demander sa démission et tout ça. Mais on est quand même en 2021-2022, et à savoir qu'on a quand même des moyens aujourd'hui qui permettent de rester en activité même si on est éloigné, notamment qu'il était quand même à moins de 2 heures de Paris, un vol d'oiseau. Donc ça c'est une chose, qu'il est quand même resté au boulot, qu'il a fait des réunions en visio, qu'il a participé donc à une interview avec Le Parisien, donc c'est quelqu'un qui même en vacances était au boulot. Donc ça il faudrait quand même pas l'oublier. Donc aujourd'hui ce que je veux dire, c'est que en face tous les opposants ils sautent là-dessus tout de suite parce que mis à part sort le fait qu'il était en vacances à Ibiza, mais qu'il soit à Melun, qu'il soit à Ibiza, qu'il soit à Tataouine, on s'en fout, d'accord, il a le droit de prendre des vacances.
Ah, sauf que Ibiza c'est pas justement
On s'en fout de ça, quoi.
Ben oui, mais vous dites on s'en fout, mais tout le monde s'en fout pas, c'est ça que j'ai remarqué hier.
Ouais, mais bon, non mais ça c'est trop
facile.
Il y a
des gens qui s'en foutent pas en fait.
Non, mais moi je vais vous dire une chose, Pascal, d'accord, je vais vous dire une chose très simple, c'est que tous ces gens-là, en face, on a les élections présidentielles qui arrivent, et en face, on n'a personne qui est capable de rivaliser avec Macron aujourd'hui. Donc on va sauter sur n'importe quel petit événement pour faire en sorte de discréditer que ce soit Macron ou que ce soit les membres de son gouvernement.
Mais vous savez bien que les symboles peuvent
exister.
Ouais,
mais attendez, faut arrêter les symboles, considérer la connerie, les symboles. Il aurait été à Poutacana ou à Melun.
Il n'aurait pas le droit à Poutacana parce qu'il y a plus de 2 heures de distance.
Ouais, non, mais il aurait été à Melun, je veux dire, ou
ça aurait pas été la même chose.
Non, mais il faut arrêter.
Et si vous emmenez votre fiancée à Melun, c'est pas la même chose qu'à Ibiza.
Hein. Non, mais ça c'est évident. Mais bon, en même temps, on est en hiver, d'accord. Et en hiver, la fiesta à Ibiza, elle est pas la même. Hein.
Je suis d'accord, mais ça, honnêtement, Christian, je vous assure, moi, j'ai pas envie d'accabler Jean-Michel Blanquer parce que il est crédible, évidemment. Il tente de faire bouger les choses à l'école. Il essaye de faire revenir une école avec des savoirs, et ça, c'est important. Mais convenez que je vais le dire avec des mots simples, c'est pas très malin, quoi, d'aller à Ibiza, c'est pas très malin.
Là, Pascal, moi, je suis pas d'accord avec vous. Le mec, il a le droit de partir en vacances où il veut. D'accord. Et ça, il n'y a personne qui a le droit de le dire.
C'est pas une question de droit, bien sûr qu'il a le droit.
Non, mais on s'en fout de la symbolique. On s'en fout de la symbolique. Ce qui est important, c'est le boulot qui est fait. Il est fait ou il n'est pas fait. Après, il est bien fait ou il n'est pas bien fait.
Mais vous êtes. Dans votre job, il y a toujours de la symbolique. Il y a toujours de la symbolique dans tous les jobs.
Non, Pascal. Non,
vous êtes commercial, par exemple.
Non, je ne suis pas d'accord, Pascal.
Non, mais vous êtes commercial. Vous êtes commercial.
Oui.
Bon, bah, si vous arrivez devant vos clients, je ne sais pas ce que vous vendez d'ailleurs. Bon, mais si
moi,
vous arrivez.
Je vends des produits chimiotechniques.
Bon, bah, si vous arrivez devant vos clients avec une Ferrari, je ne suis pas sûr que c'est du symbole et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose pour le commercial que vous êtes.
Ben si, parce que ça pourrait dire que mes affaires vont très bien, que je gagne très bien ma vie, que les produits fonctionnent merveilleusement. Donc,
bon, alors c'était un mauvais exemple. Je vais essayer d'en trouver un meilleur.
Non, mais pour rester sérieux, ce que je veux dire par là, c'est que tous les membres de l'opposition, aujourd'hui, se jettent dessus. Aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner qu'on ait une abstention qui augmente parce que, on va se jeter sur des symboliques à la con comme celle d'Ibiza. Et ça ne sert à rien. C'est d'une stupidité, mais monstrueuse.
J'ai compris.
Parce que je trouve ça complètement débile.
J'ai compris, on est en retard.
Et donc voilà quoi.
Merci Christian, parce que on n'a que des excellents auditeurs aujourd'hui. Donc vous êtes sympathique et vous êtes pertinent. Donc c'était agréable de vous écouter. Monsieur Boubouk.
Je suis là, Pascal.
Ah, vous êtes là.
Oui.
Esprit, es-tu là?
Pardon?
Je dis esprit, es-tu là?
Oui, esprit est là. Allez, bon, on y va. Sur nos réseaux sociaux.
Si tu es là, frappe un coup. J'ai jamais fait tourner des tables?
Non, jamais encore fait tourner des tables.
Non. Spiritisme.
Même pas la force de mon esprit.
Es-tu là? Si tu es là, frappe un coup. Boum.
D'accord. Allez, les réseaux sociaux. Oui. Pour Dominique, ne rien faire, que ça soit à Ibiza ou à Paris,
Ibiza.
C'est pareil. À Ibiza, pardon, c'est mon accent. Ou à Paris, c'est pareil. Le vrai problème, c'est le protocole défectueux. Eric nous dit, on tombe sur Blanquer pour rien. Il a le droit de prendre des vacances comme tout le monde. Et on termine avec Anne. Ses excuses ne changent rien. Le mal est fait.
Merci. La pause, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Michel est avec nous. On voulait dire un mot de Claude Lelouch. C'est son 50e film. Il a 84 ans. Vous vous rendez compte ce que c'est que de sortir 50 films dans une carrière de cinéaste ? De metteur en scène. Bonjour Michel.
Bonjour Pascal. C'est Pascal, c'est toi.
Oui, c'est Pascal, oui.
Oui, d'accord. Non, parce que. Oui, oh, je suis contente de vous avoir.
Ben, je vous en prie,
vous
Michel.
Vous savez comme je suis contente.
C'est gentil.
Parce que. Mais oui, parce que vous parlez de Nantes sans arrêt. Et l'autre jour encore, mes enfants m'ont dit sur la 6 que vous parliez de votre grand-père.
C'est entendu, mais je ne parle pas que de Nantes, en tout cas je l'espère, Michel, non, mais vous allez nous parler de Lelouch.
Oui, voilà. Alors, ben évidemment, le film Shabadabada,
un homme et une femme.
Hein, je peux vous chanter Shabadabada, la 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 la. Et puis alors, je disais à Olivier tout à l'heure, j'aimais beaucoup avec Bernard Tapie aussi.
Le film avec Bernard Tapie, c'était... Homme-femme, mode d'emploi, qui était un film très réussi avec Fabrice Luchini, notamment. Ophélie Winter également jouait, je crois, dedans.
Il en a fait tellement, il en a fait une cinquantaine.
Alessandra Martinez. Que me dites-vous, Michel?
Il en a fait une cinquantaine.
Bah, il en a fait pile 50, puisque c'est son 50e qui sort aujourd'hui. Est-ce que vous avez un film préféré?
Ben moi, j'aime beaucoup, évidemment, étant donné mon âge, c'est le premier.
Un homme et une femme. Qui n'était d'ailleurs pas le premier, parce qu'avant, il en avait fait quelques-uns, mais qui n'avait pas eu de succès. Il avait fait Une fille et des fusils, des films comme ça, qui étaient des brouillons. Mais c'est le premier film qui a extraordinairement marché. Il avait 28 ans, quand même. Hein. On est en 66, il est 37, Claude Lelouch, 28, 29 ans. Et il a eu la Palme d'Or à Cannes avec Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée, et puis ses enfants qui courent sur la plage de Deauville.
Oh ben j'aimais beaucoup Jean-Louis Trintignant. Ça évidemment, ce sont des acteurs, vous savez que j'adore moi, c'est mon époque.
Bah c'est notre époque à tous. Merci Michel, parce qu'il est 14h23, c'est l'heure du débrief.
Et oui, ça va être Eh bien, je serai contente de vous avoir un jour, Pascal.
Eh bien, écoutez, vous m'avez eu, si j'ose dire, Michel, et je vous embrasse vraiment tendrement. 14h23, c'est le débrief.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
Avis à toute la classe politique, venez écouter les auditeurs en la parole, venez écouter la vraie vie, celle de millions de Français comme Fabienne qui nous a appelé pour parler de la hausse des prix des carburants mais aussi de sa situation. Femme de ménage, à 55 ans, elle gagne 1100 euros net et à la fin du mois, il n'en reste pas grand-chose.
Je me rends compte que je n'y arrive plus. C'est surtout ça, 150 euros pour finir le mois entre la nourriture et tout ça. Parce que j'ai un loyer de 600 euros. L'essence, c'est un, comment dire, c'est un global. C'est la goutte d'eau que je pense qui fait déborder le vase.
Et Fabienne n'a pas le choix, elle doit trouver des solutions en permanence.
Je me suis abonnée à Netflix parce que je ne peux pas aller au cinéma. Ça, c'est un exemple. Je fais mes courses, je vais faire mes courses le samedi matin. Je pars à 8h30 de chez moi pour pouvoir aller au champ où on fait les produits qui vont arriver en date de péremption à moins 50%. C'est ça, la France.
Et au passage, un message à toute la classe politique.
Tous nos politiques, enfin une bonne partie, ne se rendent pas compte de ce qu'on peut vivre tout à fait en bas.
Beaucoup plus léger maintenant dans l'émission. Parlons du code de la route. Serge est moniteur d'auto-école et c'est vrai qu'on peut oublier des fois certaines règles, mais on est joueur, on accepte tous les défis.
Le code, il faut avoir une mémoire en état de marche.
Passez nous voir ou envoyez Laurent Tessier, on lui fera passer un test. Mais...
Alors, je n'ai pas très envie de me mouiller personnellement. Soufflez un autre nom, Pascal.
Si je vous envoyais Monsieur Boubouk, parce que Monsieur Boubouk, il aime bien voyager le week-end.
Envoyez-moi Monsieur Boubouk.
J'ai loupé trois fois. Regardez.
Je peux vous dire que Monsieur Boubouk est notre meilleur élément. On l'enverrait les yeux fermés à qui veut gagner des millions. Par exemple, un casting, tiens, culture générale. Il a brillé, si, si.
L'instant culture de Monsieur Boubouk.
Oui, avec par exemple, tiens, question cinéma.
Cher ami, Monsieur Boubouk, bonjour.
Bonjour, Pascal.
Vous allez à Cherbourg ce week-end.
Mais oui, pourquoi
prenez
pas.
Votre parapluie.
Eh bien, allons-y, on y va.
Ah, c'est moche, c'est moche.
Il n'a pas compris.
Mais si, oh, Damien Béchiot, voyons.
Mais si, quand même, Monsieur Boubouk a compris, soyez pas mauvaise langue.
Quoi, ça que si, ben parce qu'il pleut souvent à Cherbourg.
Mais pas du tout.
Non, mais pas du tout.
C'est les parapluies de Cherbourg. Oh, c'est un film de Jacques Demy.
Encore une médaille à mon palmarès.
Bon, on va se rattraper avec une autre question.
Allez voir les Demoiselles de Rochefort également.
Ah bon ?
Nous sommes des sœurs jumelles, comme vous le savez.
Qui ? Vous et moi ?
Non. Ah, c'est dans les Demoiselles de Rochefort. Nous sommes des sœurs jumelles. Et sous le signe des teubles.
Bon, une dernière chose à rajouter, Pascal.
Allez, es-tu là ?
Voilà, je ne sais pas. Bon, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte alors avec l'une des chansons du jour.
Nous sommes deux sœurs jumelles. Mais sous le signe des Gémeaux.
La joie de vivre de ce film est extraordinaire. Monsieur Jean-Alphonse, vous, c'est pas la joie de vivre.
Ça peut arriver.
Forcément, les histoires que vous nous racontez.
Ça peut arriver, mais c'est pas trop mon
secteur. Parfois la joie de mourir, hélas.
Oh, la joie de mourir, je sais pas. En tout cas, peut-être la joie de résoudre dans des enquêtes. Pour les enquêteurs, les juges, les magistrats et surtout les familles de victimes. Aujourd'hui, la vengeance du gardien de nuit. Comment un homme cultivé, instruit, féru de botanique va se transformer en un impitoyable tueur? C'est à 14h30 tout de suite, donc dans l'heure du crime.
On vous écoute.
Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL.